Pauline Pucciano, Titania 4.0, chapitre 17, dernière mue. Mitou continua à espérer pendant un long moment. Il s'était d'abord rendu dans le squat qui avait été leur dernière demeure avant le procès, et là, parmi le matériel d'art plastique et autres traces de leur campement, il avait attendu plusieurs heures. La vidéaste, qui était venue le féliciter pour leur performance, reçut un accueil si glacé qu'elle n'insista pas. Les yeux dans le vide, paraissant plus maigre que jamais, Mitou ne bougeait pas un cil. Il sentait sa propre vie lui échapper et partir en fumée, mais l'idée obstinée que Titania allait arriver, qu'elle le rejoindrait avant l'aube, l'attachait à ce lieu. Dès qu'il quitterait le squat, il le savait, il entrerait dans l'inconnu, dans un Paris vide d'elle, pire, dans un Paris où ils pourraient se croiser sans se reconnaître et se chercher sans jamais se trouver. Si un jour elle venait à quitter Jean, comment la rejoindrait-il? À mesure que les heures de la nuit s'épaississaient, Mito commençait à comprendre qu'elle ne viendrait pas. Pourquoi l'aurait-elle fait d'ailleurs? Elle avait choisi, et elle avait choisi Jean, sans une hésitation. Si triste qu'elle fût peut-être de son départ, elle n'avait aucune raison de le rechercher, car c'était lui qui avait décidé de bifurquer vers un autre chemin. Dans sa tête, alourdie par la fatigue, des éléments se combinaient pourtant pour le sortir de cette situation insupportable. Il lui fallait la revoir au moins une fois. Si elle ne se décidait pas à venir à lui, alors c'est lui qui irait vers elle. La péniche avait probablement regagné le quai de Bercy à l'heure qu'il était. Or, pour leur dernière nuit dans leurs corps respectifs, Titania et Jean n'étaient sans doute pas restés avec Danton. Ils avaient probablement loué quelque chose en ville, peut-être au Forum des Halles, et ils se sépareraient au matin. Titania devait prendre le train pour Londres, Jean pour Rome. Où allait-il se dire au revoir? Certainement à la gare centrale, à Châtelet, d'où partaient les navettes électriques souterraines pour les destinations internationales. L'Eurostar, le Transalpin, le Transpyrénéen, le Thalys, l'Orient Express. Mito se concentra pour se mettre à leur place. Il serait sans doute triste de se quitter, inquiet à la perspective de leurs opérations. Ils tairaient leur peur de s'aimer moins avec leur nouveau visage. Ils sentiraient l'inéluctabilité de la page qui se tourne, et ce départ sonnerait comme un adieu. Ils ne se diraient au revoir qu'au dernier moment, devant un portillon hermétique. Ce serait Jean qui accompagnerait Titania, très probablement, et leur dernier baiser aurait lieu devant le portillon qui mène à l'Eurostar. Lorsque tous ces éléments se furent emboîtés, Mito se leva, ignorant les courbatures de sa carcasse rouillée. Il jeta un coup d'œil rapide sur les diverses affaires qui traînaient autour de lui et tomba sur deux morceaux de mute serpent qu'il n'avait pas utilisés. Il les empocha, ainsi que le manteau à capuche qu'il revêtait lorsqu'il voulait passer inaperçu. Sans Hervé, il serait impossible de pénétrer dans la gare centrale, aussi inutile aucun scrupule à emprunter celui de la vidéaste qui somnolait sur un lit de fortune. Lui rendrait-il le lendemain? Pour être tout à fait honnête, il en doutait fort. À Châtelet, il descendit de plusieurs niveaux par des plateformes flottantes pour atteindre celui des navettes internationales. D'interminables tapis roulants se déployaient sous terre, dans des tunnels d'écran qui donnaient au déplacement l'allure d'un déplacement virtuel. Le premier figurait de grands espaces de type américain, le second une promenade sous-marine. La beauté des images hypnotisait les autres voyageurs, mais Mito, lui, restait concentré sur lui-même, marchant d'un bon pas sur la partie gauche du tapis, où les gens pressés pouvaient doubler les flâneurs. Il parvint enfin vers 5h20 dans le grand hall central. Des portails immenses, décorés d'hologrammes, s'ouvraient comme les branches d'une étoile autour d'un vaste espace où l'on pouvait acheter et consommer toutes sortes de nourriture, de produits culturels et de services minutes. Bains publics, échoppes de tatouages, stands de restauration rapide, kinésithérapie, marchands de sommeil et de méditation zen, cinéma 3D, pédagogo, salle de sport 3D, fleurissaient là, formant comme un petit village. La plupart des échoppes, à cette heure matinale, étaient fermées ou tournaient au ralenti, et d'un coup d'œil, Mito fit le tour du hall à la recherche de ses amis. Les hologrammes de chaque destination étaient programmés pour correspondre au fuseau horaire et à la météo réelle. Toute l'Europe était encore plongée dans la nuit, toutefois on percevait des lueurs d'aube dans les régions orientales. Un diaporama sophistiqué s'animait sous les yeux des passants. Le Colisée, Big Ben, les canaux d'Amsterdam, Sainte-Sophie ou la Sagrada Familia se côtoyaient comme en une cité unique. L'instant d'après, c'était Stonehenge, la Toscane, les Flandres, les criques de Méditerranée et les terres brûlées d'Espagne qui s'ouvraient comme les fenêtres magiques d'une maison ouverte à tous les vents. Parmi ces paysages virtuels, qui dominaient l'espace de plusieurs mètres, les voyageurs passaient, s'arrêtaient, repartaient. La plupart d'entre eux possédaient des drones de voyage, ces petits chariots autonomes, agrémentés d'une interface vocale et d'un système de géolocalisation, étaient programmés pour guider, traduire, porter les bagages et prendre des photos à intervalles réguliers. On voyait ainsi des enfants marcher en suçant leurs pouces, suivis par des chariots plus hauts qu'eux, qui les rappelaient à l'ordre lorsqu'ils s'éloignaient trop. Ces différents groupes traçaient, au gré des obstacles, des formes géométriques aussi étranges que celles des nuées d'oiseaux se déplaçant dans le ciel. Parmi toute cette faune, cependant, aucune trace de Titania ou de Jean. Mito loua un drone et le remplit de toutes sortes d'articles inutiles afin d'adopter la contenance passe-partout d'un voyageur en transit. Il acheta aussi une pilule de caféine concentrée pour se donner un coup de fouet, ainsi qu'un paquet de nutriments. Puis il s'installa dans un fauteuil de relaxation, avec vue sur l'hologramme de la Tamise, qui prenait dans l'aube brumeuse des teintes argentées. C'était dans sa patrie de fées et de légendes, songea-t-il, que Titania effectuerait son ultime métamorphose. Il ne savait pas si Stéphane Locard l'avait fait exprès, mais cela tombait bien. Au fur et à mesure des minutes qui s'égrenaient, dans le confort que lui offrait ce fauteuil de relaxation, Mito se résignait. Il ne savait pas exactement ce qu'il allait leur dire lorsqu'il les verrait. Serait-il léger ? « Bonjour, je suis la troisième roue du carrosse. Où est-ce qu'on va ?»« Tragique. » « Titania, je ferai taire mon amour à jamais, mais je ne peux rester loin de toi. » »« Cynique ? » ?»« Dans le cas où votre relation tournerait court, est-ce qu'il ne serait pas intéressant d'avoir un joker ?»« Sincère. Je ne sais pas ce que je fais là, mais je voulais vous dire au revoir. » Ou bien allait-il simplement rester tapis dans l'ombre, sans dire un mot ? Tout lui paraissait également bancal et absurde. En vérité, il le comprenait, leur séparation avait déjà eu lieu. Ce qui le poussait là, c'était un désir de clôture, un besoin d'affirmer sa liberté en apportant lui-même un point final à cette histoire. Un point final, c'était bien ce dont il s'agissait. Mito songea à ce qu'il était avant de rencontrer Jean, un HR au bout du rouleau, suppliant pour des nouilles chinoises, la jambe gangrénée qui dormait rue des Martyrs. Il souleva son pantalon pour regarder sa jambe cybernétique, si parfaitement adaptée à son corps qu'il n'y pensait presque jamais. Il avait une identité informatique stable qui l'attendait. Un métier. Mito tenta de réfléchir le plus sincèrement possible. Était-ce ce qu'il souhaitait ? Changer de visage et travailler pour Locard ? Rentrer dans le rang des nantis ? Oublier la bohème ? Ou bien... Il revit les écumeurs, l'Amazone, le collectionneur et tous ces lieux interlopes dans lesquels il était passé. N'avait-il pas une autre carrière à tenter de ce côté-là ? Des travaux ponctuels à réaliser pour Locard en freelance ? Caméra cachée, interview déguisée. Et puis des petites affaires personnelles ? La reprise en solo des vidéos du collectif ? Un trafic de puces peut-être, ou un stand à Saint-Ouen ? Paris lui paraissait si vaste et si excitant pour un invisible qu'un sourire involontaire étirait progressivement ses lèvres. Devant lui, sur l'hologramme de l'Eurostar, la lumière matinale éclairait Londres et déchirait ses haillons de nuages. Et soudain, il les vit arriver de loin. Titania avait un foulard qui couvrait totalement ses cheveux de neige et de grandes lunettes noires qui descendaient presque jusqu'à son menton. Jean, avec une capuche rabattue sur la tête, la tenait par la taille. Ils étaient l'un et l'autre sans le moindre bagage, et Mito trouva ce départ, les mains dans les poches, étrangement émouvant. Titania devait avoir moins peur de l'opération, car c'était pour elle une expérience familière. Mais Jean, si naturel, si hermétique au self-art, allait renoncer au seul héritage qui lui restait de sa mère. Il paraissait plus petit, plus jeune aussi, et Mito retrouva pour lui la sympathie que ce jeune homme décalé lui avait toujours inspirée. Il se souvint de ce qu'il avait dit un jour à Titania. Jean était injuste, il valait mieux que deux réunis. Et il ne put s'empêcher de penser que Titania serait sans doute plus heureuse avec Jean qu'avec lui. Tandis que les deux jeunes gens serrés l'un contre l'autre se parlaient avec une intensité et une tristesse palpables à plusieurs mètres à la ronde, Mito sut enfin ce qu'il allait faire. Il se força d'abord à les regarder, longtemps, afin de voir la réalité de leur amour en face et de ne jamais l'oublier. Puis il attendit qu'ils s'embrassent. Et là, furtif, profitant de leur absence au monde, il s'approcha à pas de loup et, avec toute l'adresse héritée de ses années de pickpocket, glissa dans leurs poches respectives un petit morceau de mue de serpent. Stéphane Locard était sur les nerfs depuis le 13. Dès le 14, il avait fallu faire face aux investigations de la police, avec plusieurs dépositions, dont deux avec voyage en sécuribo. Il lui avait été impossible de ne pas donner le lieu d'atterrissage du VP, mais il prétendit, ce qui n'était pas absolument faux, ne pas savoir où les trois fugitifs se trouvaient, ni ce qu'ils comptaient faire. Entre deux interrogatoires, Il avait passé quelques coups de fil aux personnalités qui lui devaient des services dans diverses corporations, dans l'espoir d'obtenir une baisse de zèle à son endroit. Il s'était bien sûr, malgré ce traitement de faveur, copieusement rongé les seins à l'idée que ses protégés risquaient de se faire attraper avant de pouvoir changer de visage. Ensuite, il y avait eu les visites répétées et de plus en plus menaçantes de Régenville, qui avaient été moins faciles à circonvenir que la police. Locard n'avait fini par s'en débarrasser qu'en se payant les services d'un détective pour le filet et ceux d'un garde du corps. Le gorille, un tas de muscles cybernétiques de 2,30 m, aux gestes étonnamment raffinés, était heureusement du genre silencieux et il parvenait par instant à oublier sa présence. Son compte OMS, pour comble de tracasserie, était inondé de messages hystériques qui allaient de l'enthousiasme le plus inconvenant – il y avait eu un décès lors de cette émission tout de même – et les protestations les plus viles. Parce qu'il avait médiatisé le collectif subversif et brisé le tabou d'une mort presque en direct, on faisait tour à tour de Stéphane Locard, le héros de la résistance aux corporations, et le voyeur immonde qui faisait profit de la mort. Plusieurs procès lui avaient été intentés, des procès sans grande importance, mais qui avaient malgré tout nécessité qu'il engage un cinquième avocat. Enfin, il avait un travail monstre. Il fallait battre le fer tant qu'il était chaud, et renégocier le prix des plages de publicité à la faveur de cette audience sans précédent. L'argent coulait à flot, et cela était grisant, mais il était important de garder la tête froide. Et puis, il fallait couvrir la mort d'Irina Morgovic, pas question de laisser cette aubaine aux autres chaînes. Happening devait le faire, avec intelligence, subtilité, dignité. Aussi, faisant fi des conseils de ses collaborateurs lui enjoignant de rester discret, Locard se chargea lui-même du commentaire des funérailles qui eurent lieu en grande pompe au Père-Lachaise. Le jour où Irina fut enterrée, il reçut enfin un appel de la clinique de Londres, puis quelques heures plus tard, un autre de celle de Rome. Titania et Jean étaient arrivés à bon port, et les opérations allaient pouvoir se dérouler sans encombre. Les nouvelles identités étaient prêtes. Jean allait devenir le reporter Gianni Strada, et Titania la vidéaste Tania Folk, qui allait bientôt travailler pour lui. Il avait déjà, d'ailleurs, une multitude de projets à leur soumettre. En revanche, il était surpris que la clinique de Paris ne l'ait pas appelé. En toute logique, ils auraient même dû l'appeler avant. « Adèle ?» Le gorille, prévenant, ouvrit la porte à la secrétaire. « Pouvez-vous appeler la clinique de la rue de Belzunce ? Demandez-leur si le patient qu'ils attendaient est bien arrivé. »« Tout de suite, libère-t-on Locard. » Stéphane Locard hocha la tête, puis il tâcha d'oublier la présence du géant docile qu'il payait à perdre son temps, ce dont il s'acquittait du reste avec une remarquable patience. Il se plongea dans les documents audiovisuels qui devaient lui servir à préparer son émission du lendemain. La prétendue Daphné Morgovic serait son invitée, et il comptait bien la déstabiliser autant que possible. Cette sombre histoire d'organes et de meurtres, de fausses filles et d'héritages, c'était du pain béni pour l'audience, et il savait exactement quoi faire pour en tirer le maximum de profit. « Monsieur Locard ?»« Oui, Adèle. » »« La clinique n'a pas vu le patient. Ils disent qu'ils ne peuvent réserver indéfiniment la place. » »« Dites-leur de patienter encore jusqu'à demain. »« Bien, monsieur. » Stéphane Locard resta pensif un moment. Ce mytho était certainement le plus insaisissable des trois. Inventif, audacieux, polymorphe et peu fiable. Il valait peut-être mieux au fond ne pas l'embaucher de manière pérenne. Locard était presque sûr que ce personnage reparaîtrait au moment où il l'attendrait le moins. Après tout, cette opération chirurgicale et cette nouvelle identité informatique étaient le salaire que Locard leur avait promis à tous les trois. Mytho l'avait dédaigné, mais il viendrait récupérer sa mise sous une autre forme, plus tard. Les types comme lui ne laissaient pas leurs créances courir très longtemps, surtout quand ils étaient dans le pétrin. HR, seul, privé de public. Locard ne lui donnait pas 15 jours avant de refaire surface. Peut-être arriverait-il à lui faire donner une interview. En soupirant, il se remit à l'étude de ses fichiers audiovisuels. Le silence retomba dans le bureau pourpre, où l'autoportrait de Durer, dans l'ombre, semblait surveiller à la fois le garde du corps méditatif et l'homme du réseau, nerveux et concentré, qui venait de dégrafer sa fraise et s'agitait mystérieusement devant son écran 3D. Lorsque, installée dans le train, Titania mit la main dans sa poche et découvrit la mue de serpent, elle ressentit une émotion vive et deux larmes perlèrent bientôt à ses yeux. Elle avait reconnu Mytho tout de suite, derrière ce geste, élégant et discret, lourd d'une déclaration trouble. Quand diable avait-il pu réussir à mettre ça dans sa poche? L'avait-il suivi depuis la péniche? L'éternel second, l'homme de l'ombre, l'invisible, ne lui laissait que son enveloppe comme trace ultime de son passage. Qui allait-il devenir? Quelle peau neuve allait-il endosser? Ils s'étaient quittés au seuil de leur métamorphose et ne pourraient jamais se reconnaître. Tout ce qu'ils conserveraient l'un de l'autre, c'était l'enveloppe laissée en arrière, ce qu'ils étaient avant. Les personnes qu'ils allaient devenir ne se connaîtraient pas. Titania, dans la solitude de ce tunnel sous la Manche qui l'emportait vers une nouvelle incarnation, se demanda ce qu'elle éprouvait pour lui. Mytho avait tant de visages, tant d'humeurs, tant de secrets, qu'on ne pouvait ressentir envers lui que des sentiments changeants, divers. Elle éprouvait de la pitié, de la colère, de la confiance mêlée d'un peu de peur, de la reconnaissance, de l'agacement, beaucoup de proximité, et par instants, un inexplicable trouble. Mytho lui manquerait, mais il n'y avait pas de place pour lui dans sa nouvelle existence. Le train qui l'emportait à pleine vitesse, à travers la terre et la mer, l'éloignait chaque seconde un peu plus de ce passé auquel il appartenait maintenant. Dans l'avenir, elle ne voyait que Jean. Jean, quant à lui, ne trouva la mue de serpent dans la poche de sa veste que lorsqu'il se déshabilla dans la chambre de la clinique. Il avait traversé Rome le plus vite possible, en suivant les indications de son RV et en s'efforçant de ne rien regarder. La lumière qui l'assaillait, ainsi que la beauté presque agressive de la ville, de ses coupoles, de ses façades, de son histoire, l'avait empli d'un désir singulier. Tout en suivant le chemin qui le menait à sa propre métamorphose, il avait humé, sans le vouloir, les couleurs ocre et verte du Palatin, les accents chantants de la langue italienne, les reflets paresseux du Tibre. La ville l'entêtait. Déjà il s'en sentait amoureux, mais il réservait sa découverte pour plus tard. Une découverte qu'il imaginait longue, minutieuse, sensuelle. Une découverte qu'il ferait avec Titania, lorsqu'ils seraient là, tous les deux. La clinique, située dans le quartier du Trastevere, était un bâtiment ultramoderne niché dans un jardin antique. Les citronniers, les cyprès, les oliviers, paraissaient naturels et dégageaient un parfum subtil. Des statues de marbre, qui n'étaient pas des hologrammes, se découpaient dans la verdure. Jean se souvint de la seule expérience similaire qu'il ait eue, la simulation 3D de la promenade dans la Villa Cimbrone. Il retrouvait l'ombre de ces sensations puissantes qu'il avait partagées avec Titania et goûtait la joie enfantine de pénétrer pour de vrai dans un royaume aperçu en rêve. Dans son émerveillement, Jean crut voir une statue blanche avancer vers lui, majestueuse. C'était un patriarche aux yeux creux, enveloppé d'une toge aux remarquables drapés. Jean décela quelque chose de mécanique dans sa démarche et comprit qu'il s'agissait d'un servibo qui venait à sa rencontre. Jean s'identifia. Le servibo se mit aussitôt à lui parler en français, d'une voix rocailleuse étrangement humaine. « Vous êtes attendu dans la chambre 851, dit-il. Votre reconfiguration esthétique est programmée pour demain et nous devons procéder à tous les préparatifs d'usage, examen cardiaque, artériel et neurologique, bilan allergologique et définition numériquement assistée de la morphologie faciale du visage cible. » Jean le suivit, sans oser répondre à ce dieu artificiel descendu d'un Olympe technologique. Il ne put s'empêcher de voir un bon augure dans ce numéro de chambre, 851, qui le plongea un bref instant dans l'atmosphère amoureuse d'un VP flottant au-dessus de Paris. Ils ne rencontrèrent personne avant d'arriver dans la chambre, un espace aseptisé dans lequel des œuvres d'art minimalistes du XXIe siècle étaient accrochées comme dans un musée. Il porta machinalement les yeux sur une toile blanche comportant un minuscule carré noir en son centre. « Le personnel de la clinique ne tardera pas à prendre contact avec vous. Vous êtes invité à vous déshabiller et à utiliser le caisson de douche-vapeur programme numéro 12. » Jean vit le servibo pivoter et repartir, ses lourds pieds martelant les couloirs vides. Il retira sa veste, et ce fut à ce moment qu'il trouva la mue de serpent, ce qui lui donna une légère décharge d'adrénaline. Il pensa d'abord que c'était Titania qui lui avait laissé ce message, pour l'encourager dans cette opération qu'il redoutait. Mais il ne reconnaissait pas là ses manières sensibles. Il y avait quelque chose d'un peu sarcastique dans cet objet déposé à son insu dans son vêtement. Jean, nu, s'engouffra dans le caisson de douche et lança le programme 12, hygiène chirurgicale et relaxation. Tandis que les jets bienfaisants massaient et désinfectaient son corps entier, son esprit continuait à vagabonder. Pourquoi Titania aurait-elle fait ce geste et où pouvait-elle avoir trouvé cette mue de toute façon? Il avait passé tout son temps avec elle, depuis la péniche jusqu'à la gare. Il était très improbable qu'elle gardait tout ce temps une mue de serpent. Et soudain la lumière se fit dans son esprit. Mytho. Il les avait suivis et avait trouvé le moyen de glisser cette mue dans sa poche. Sarcasme, avertissement, geste d'adieu, qui pouvait savoir dans quelle disposition il se trouvait à son endroit? Il était jaloux, en colère peut-être? Jean, qui aimait tout mettre en mots, chercha à traduire ce message. Mytho lui souhaitait-il simplement « bonne métamorphose » Lui rappelait-il qu'à l'instar de tous les autres coupables, Jean avait une dette envers lui? Suggérait-il que sa victoire n'était que temporaire, avec l'idée que tout est sans cesse soumis au changement, que la roue tourne, que rien ne dure? La douche s'arrêta et le caisson s'ouvrit. Jean fut tiré abruptement de sa rêverie par la présence d'une assistante qui s'appliquait à afficher sur un écran virtuel un visage inconnu. « Bonsoir, Liberton. Nous allons procéder à la définition morphologique du visage cible, si voulez-vous le bien. » Jean faillit protester contre son intrusion alors qu'il était nu, mais il préféra se vêtir de la blouse blanche qu'elle lui tendait. « C'est Stéphane Locard qui vous a proposé ce visage-là » demanda-t-il. L'infirmière, une jeune femme brune au visage régulier, parut avoir du mal à le comprendre. « Je parle français, » dit-elle avec un fort accent italien, « mais je vous prie de bien vouloir vous exprimer avec lenteur. » « Ce visage, articula-t-il, c'est celui que je vais avoir ?»« Pas forcément, mais il s'agit du visage par défaut que l'ordinateur nous fournit. Il a été déterminé par deux paramètres. »« Primo, la relative proximité morphologique de ces faciès avec le vôtre, de manière à simplifier l'opération. »« Secondo, l'impression générale de différence avec le vôtre, afin qu'on ne vous reconnaisse pas. Ce visage, c'est en quelque sorte le visage optimum. » Jean lui jeta un coup d'œil plus appuyé. C'était un visage neutre, qui ne lui disait rien. « Mais on peut le changer ?»« Oui, bien sûr. Ce n'est qu'une base de travail. Nous allons examiner les détails que vous souhaitez modifier. L'image se mettra à clignoter en rouge si ce que vous me demandez est trop coûteux, et en vert si vous revenez trop près de votre visage initial. » Jean soupira. « Je peux actionner moi-même les commandes ?»« Certainement. » Il se saisit du panneau de contrôle et commença à explorer les paramètres. Pigmentation, forme des sourcils, des paupières, des pommettes, du nez, de la mâchoire, ossature du visage, présence de rides, nombre de dents, tout cela lui donnait le tournis et lui faisait mal rien que d'y penser. « Je voudrais la transformation minimum, finit-il par dire, et si possible pas trop douloureuse. L'idée est tout de même qu'on ne vous reconnaisse pas. Oui. Que me conseillez-vous ? Modification de la pigmentation, de l'âge apparent, de la forme des paupières et du nez, c'est le pack les moins coûteux. « Vous pouvez me montrer ?»« Bien sûr. Voulez-vous changer de type racial ?» La question surprit Jean, qui ne se l'était jamais posée. « Eh bien, je ne sais pas. Qu'est-ce que cela donnerait ?» L'infirmière reprit les commandes et lui montra différents morphings à partir de son visage. Type africain, asiatique, amérindien. « Je vous conseille le type amérindien qui vous transforme moins. » Ses cheveux devenaient noirs et plus raides qu'ils n'étaient, et sa peau prenait quelques teintes dans le nuancier pantone de peau humaine qu'elle lui présentait. « Je vous recommande une modification de la forme des paupières et du nez cohérente avec cette pigmentation, dit-elle, comme ceci ou comme cela. » Son nez devenait plus aquilin, ses yeux moins ronds. Le visage obtenu ne manquait pas d'un certain charme et Jean se dit qu'il finirait sans doute par s'y habituer. « Et pour l'âge apparent, on garde le même ?» Jean réfléchit. Il se sentait beaucoup plus vieux que quelques mois auparavant et il lui parut de bon sens d'adapter son nouveau physique à ce sentiment intérieur. « Non, je voudrais être légèrement vieillie. »« Je vous laisse faire. Vous arrêtez les morphings quand vous atteignez l'âge souhaité. » Le visage vaguement amérindien se mit à vieillir sur l'écran, la peau un peu plus fine, les contours un peu moins précis, les traits un peu plus épais. « Là, c'est bien. 32 ans d'âge apparent ? C'est trop ? Il est rare que les gens se fassent vieillir dès 13 ans, mais le client est roi. » « Comment conseillez-vous alors ? » L'infirmière regarda le visage choisi par Jean. « Je vous conseillerais bien 25, juste un peu moins juvénile qu'aujourd'hui, mais toujours aussi tendre, » dit-elle en souriant. Jean lui sourit en retour, surpris. « Vous semblez avoir l'habitude, je vous fais confiance. » L'infirmière déclara au bout de quelques secondes. « Nous y voilà, qu'en dites-vous ? Ce visage vous convient ?» Jean acquiesça. Elle prit un élégant Hervé dans ses affaires et accomplit une manipulation rapide. « Très bien, je dois dire que vous êtes un client particulièrement facile. » Ce n'est pas toujours le cas des Français, mais je vois à votre nom que vous avez maintenant des origines italiennes. Jean sourit. Voici votre Hervé, Liberton Strada. Je dois prendre le vôtre en échange. Jean tendit le Hervé qu'il utilisait depuis quelques mois. Vous avez l'habitude de croiser ici des gens en cavale, on dirait. Je ne comprends pas en cavale. Des gens qui fuient. C'est mon métier, Liberton Strada. Nous accompagnons les gens qui ont besoin d'un nouveau départ. « Puis-je vous demander combien Stéphane Locard a déboursé pour ce service ?»« Le Liberton Locard jouit des tarifs préférentiels. C'est un client très spécial. Nous lui avons proposé un forfait à 95 000 crédits. » Jean hocha la tête. N'hésitez pas à profiter du jardin. Nos serviteurs sont également à votre disposition pour le service de restauration. À demain.
À demain.
Jean, un peu angoissé, ouvrit son nouveau Hervé. La photographie et l'avatar étaient déjà à l'effigie de ce garçon de 25 ans, au teint cuivré et aux cheveux noirs de jais, qui répondait au nom de Gianni Strada. Dans la clinique londonienne, l'assistant qui s'occupait de Titania avait du mal à cacher sa fatigue. Cela faisait environ 2 heures qu'il travaillait sur son profil, auquel la jeune femme apportait des modifications infimes et toujours renouvelées. On eût dit qu'elle façonnait le nez d'une statue qui devait être son grand œuvre, en y apportant un soin méticuleux, perfectionniste. « Êtes-vous satisfaite ? » demanda-t-il pour la 10e fois sans conviction. Titania, très calmement, regarda le visage proposé. « Le nez est convenable, » dit-elle, « mais il y a encore quelque chose qui cloche. La hauteur des pommettes, peut-être ? Est-il possible de modifier très légèrement la forme de l'arcade sourcilière ?» L'assistant entra les modifications demandées et l'image clignota en rouge. « Je crains que vous ne dépassiez le budget, » dit-il. « Laissez tomber, alors. Mais pour la peau, décidément, retirez-moi ces taches de rousseur. Et la teinte est encore trop mate. »
« Trop mate ? Mais le visage est déjà très pâle. »«
Vous avez raison, mais je le veux ainsi, pâle, et capable de s'empourprer sous le coup de la chaleur ou de l'émotion. Pouvez-vous intégrer un maquillage permanent sur les paupières ?»
L'assistant entra les modifications.
« Ombre à paupières ? Oui, montrez-moi le nuancier. » L'assistant, bouillant intérieurement mais sans rien en laisser paraître, s'exécuta. Alors Titania regarda intensément le visage qu'elle s'était créé, le visage de Daphné tel qu'elle le rêvait, tel qu'elle le couvait depuis quelques semaines. L'assistant, qui ne cessait de l'observer, ne comprenait pas pourquoi une fille aussi parfaite se montrait si pointilleuse sur tous les détails qui allaient l'enlaidir. Ce travail absurde heurtait sa conscience professionnelle, et il finit par lâcher. « Vous êtes déjà si belle, vous ne voulez pas rester comme vous êtes ?» Il regretta aussitôt sa question et pria pour qu'aucun manager ne l'eût entendu la poser. Titania fronça les sourcils et le considéra avec mépris. « Ça ira pour le visage cible, je vous remercie. » Une légère rougeur était montée à ses joues, et ses yeux violets, si calmes jusqu'ici, semblaient striés d'éclairs. Tout ce qu'elle faisait ou disait, ses moindres mouvements, toutes ses expressions paraissaient pourtant augmenter sa beauté. Cette fille était un vrai chef-d'œuvre de self-art. L'assistant se demanda à quoi elle ressemblerait le lendemain, quand elle serait en colère, et la regarda partir sans ajouter un mot. Il lui répugnait décidément de la transformer, exactement comme il répugnerait à un peintre médiocre, conscient de la pauvreté de son art, de ses couleurs et de son imagination, de barbouiller par-dessus la toile miraculeuse d'un maître.